vivre ensemble. Et on a vu ces dernières semaines beaucoup de choses, peut-être un peu théoriques, sur le salut. Et le chapitre 5 est un chapitre un petit peu charnière, un chapitre de transition entre ce que nous croyons et ce que nous vivons. Et ça va établir le début de la relation entre, voilà, on croit certaines choses, comment est-ce qu'on vit ces choses. Et la semaine dernière, Miguel nous a parlé de la liberté que nous avons en Christ. Et le passage d'aujourd'hui nous interroge sur cette liberté que Dieu nous donne et sur ce qu'on en fait au quotidien. Et donc, le titre que j'ai donné à ce chapitre, à ce message, c'est « Être libre, mais pourquoi faire ?» Et c'est une bonne question. On va essayer de répondre ensemble. Je propose de lire le chapitre 5 de Galates. On va lire les versets 1 à 6 et on va passer ensuite au verset 13 jusqu'à la fin. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Moi, Paul, je vous le dis, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Nous, c'est de la foi et par l'Esprit que nous attendons la justice espérée. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est pas la circoncision ou l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Verset 13. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Alors, être libre, mais pourquoi faire ? Dans ce passage que j'ai... Donc on va aborder selon le plan affiché, on va d'abord voir que Paul nous présente deux dérives, deux mauvaises compréhensions de la liberté, et ensuite, on va voir, selon Paul, la vraie liberté c'est quoi, et surtout c'est pourquoi faire. Et enfin, on verra la vraie liberté, comment faire, qui est aussi une question pratique mais essentielle. Donc commençons par les dérives de la liberté. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les deux parties de notre texte, verset 1 et verset 13, commencent par un verset très similaire. Au verset 1, on trouve « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis ». Et au verset 13, « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés ». Ces deux versets sont des versets qui proclament notre liberté en Christ, mais chacun est suivi d'un avertissement. Le premier avertissement, au verset 1, c'est tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Le danger ici, c'est de rejeter la liberté. Paul parle ici de l'esclavage, du régime de la loi. On en a parlé à de nombreuses reprises les dernières semaines. Je ne vais pas m'étendre dessus ce matin. Je vais juste détailler ce que Paul résume. En fait, Paul fait un résumé des versets 2 à 6 sur tout ce qu'il a dit sur les 4 chapitres précédents. Donc Paul dit, moi Paul, je vous dis, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. J'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Ce sont des termes assez fermes, assez durs. Et en effet, certaines personnes enseignaient aux Galates que en accomplissant certains rites du judaïsme, Paul reprend ici l'exemple de la circoncision, ces rites étaient nécessaires pour obtenir le salut. C'était un petit peu un salut au mérite en fonction des choses qu'on accomplit ou pas. Et si c'est un salut au mérite, c'est un salut où on n'a pas besoin de grâce, c'est un salut où on n'a pas besoin de Christ. C'est pour ça que Paul dit « vous êtes séparés de Christ ». Mais Paul met en garde ses interlocuteurs. Si vous voulez jouer à ce jeu-là, si vous voulez vous comparer à la loi, sachez que vous devez accomplir toute la loi. Et la loi de Dieu, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je ne suis pas sûr, en tout cas moi personnellement, je ne voudrais pas confronter mes actions à ces deux commandements. Parce que je pense que la balance ne pencherait pas du bon côté. Donc voilà le fardeau, l'esclavage qui pèse sur ceux qui rejettent la liberté que Christ offre. Donc voilà le premier danger. Le second avertissement, au verset 13, est le suivant. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Le danger ici, c'est de faire preuve de laxisme, de tolérance vis-à-vis du péché. Vis-à-vis du péché, vis-à-vis de notre relation avec Dieu, de notre relation avec les autres aussi, le danger c'est d'abuser de la liberté. C'est de se dire par exemple, bah, c'est bon, je suis libre, je peux faire ce que je veux. Maintenant, je n'ai plus à respecter la loi pour être sauvé et plus de contraintes. Le péché, c'est pas si grave. Dieu m'aime, il me pardonnera, peu importe ce que je fais. Alors, la notion de tolérance, on entend beaucoup parler, c'est du valeur un petit peu phare aussi de notre société, il faut être tolérant. On entend souvent, chacun a son mode de vie, ses références personnelles, la référence morale absolue n'existe pas, ce qu'on peut entendre. Tolérons tous les comportements, toutes les pratiques, tous les mœurs. Je suis d'accord qu'un minimum de tolérance est nécessaire pour le bon fonctionnement d'une société, mais en tout cas ce matin on va s'interroger sur la tolérance que nous pouvons avoir vis-à-vis de nos propres actions, vis-à-vis du péché que l'on peut commettre, vis-à-vis de notre comportement, notre pensée, nos pensées. Alors, en première lecture, le verset 13, il n'est pas affiché, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. On peut penser à que Paul parle de ce qui se passe, par exemple, à Corinthe, où il a critiqué de façon très violente la débauche, l'idolâtrie presque qui se passait aux yeux, aux vues et au-dessus de tous dans l'Église, des péchés vraiment très évidents, mais c'est pas ce que Paul reproche ici aux Galates. Paul dit, au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Le dernier verset, le verset 26, Paul dit, ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. C'est des problèmes un peu plus subtils que Paul dénonce. On peut avoir tendance, en tant que chrétien, à considérer que les péchés, c'est les péchés évidents de la société. Je ne sais pas si vous me suivez, mais bon, on peut penser à la sexualité en mariage, l'homosexualité, le vol, le meurtre, la fraude fiscale, la corruption, les choses qu'on entend dans les informations régulièrement. On peut penser que voilà, le péché, c'est ça, et bon, ça ne me concerne pas forcément. Mais le péché, et Paul, dans les œuvres de nature humaine, liste d'autres types de comportements. le péché, c'est aussi la jalousie, l'envie, l'orgueil, le mécontentement, la colère, l'esprit de jugement, l'impatience, l'égoïsme. Et on a peut-être, par confort personnel, l'habitude de considérer que ces choses ne sont pas forcément des péchés, parce que ça nous permet de nous sentir moins coupables et de vivre plus confortablement. Mais voilà, on va voir que c'est un danger aussi. On peut avoir nous-mêmes pris la liberté de modifier le curseur entre le bien et le mal. Dieu a défini ce qui est le bien, ce qui est le mal, et on peut avoir abusé de notre liberté pour déplacer ce curseur en fonction de ce qui nous arrange. Et c'est ça le deuxième danger de la liberté. Donc, rejeter la liberté, en abuser, il y a un équilibre à trouver. Je dirais que la liberté est un très beau cadeau de Dieu, mais il faut en faire un bon usage. Donc, ces deux dérives étant posées, quel est le juste milieu ? La vraie liberté, qu'est-ce que c'est ? Et surtout, pourquoi faire ? La liberté, c'est un thème vraiment central dans toute la Bible. C'est quelque chose qu'on retrouve à plusieurs étapes, de plusieurs libérations dans l'histoire biblique. Michael nous a parlé la semaine dernière que la Bible, l'Ancien Testament, était plein de préfigurations ou de types qui annoncent et qui préfigurent le message de Christ du Nouveau Testament. Et on va prendre par exemple l'exemple de la sortie d'Égypte. Donc ça, clairement, c'est la libération de l'esclavage. Le peuple était esclave en Égypte et Dieu l'a libéré. Et c'est vraiment une libération qui va devenir essentielle dans la relation entre Dieu et son peuple. Dieu va se présenter ensuite comme « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. » C'est Exode 20, verset 2. Voilà. Dieu va se présenter en fonction de cette libération qu'il a effectuée. Et le but de cette libération, à ce moment-là, c'est que le peuple puisse suivre le Seigneur dans le pays promis. Alors, il y a des péripéties, hein, ça ne va pas se passer exactement comme Dieu, on aurait pu espérer que ça se passe. Dieu connaissait toutes choses. Mais en tout cas, Dieu n'a pas délivré son peuple pour lui permettre de faire ce qu'il voulait. Et ce qui est intéressant quand on regarde... tu peux mettre l'Exode 20. Ce qui est intéressant quand on regarde ce verset 20, le verset 2 du chapitre 20, pardon, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. » En fait, c'est le verset préambule au dix commandements. Juste après, Dieu enchaîne. « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi devant ta face. » Et il enchaîne les dix commandements. Donc en fait, cette libération, c'est un peu... Dieu base sa légitimité sur cet acte. C'est parce que Dieu a délivré son peuple qu'il est légitime pour lui demander de vivre selon sa volonté. Dieu a délivré son peuple pour qu'il reste libre. Et dans la suite de l'histoire biblique, la liberté va être associée à une bonne relation avec Dieu et la captivité va être associée à une mauvaise relation avec Dieu. On va voir que le peuple va être déporté ensuite à cause de sa mauvaise relation avec Dieu. Donc Dieu a libéré son peuple pour qu'il reste libre. Et rester libre, c'est rester en communion avec Dieu. C'est respecter sa volonté. Donc si on revient à la liberté que l'on trouve dans Galates 5, ici on parle de la liberté que Christ nous offre. À la croix, Christ nous libère du régime de la loi. Il nous offre le salut par sa grâce. Dieu, Christ nous libère aussi de la malédiction du péché. Mais dans quel but ? Et c'est là qu'on va utiliser l'analogie avec l'Exode. Dieu nous libère pour que nous soyons à son service, pour que notre vie l'honore. Dieu ne nous libère pas pour que nous puissions faire ce que l'on veut. Il garde des attentes en matière de sainteté. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Christ nous a libérés pour la liberté, pour que nous restions libres du régime de la loi et surtout du péché. Et donc, une fois qu'on a vu que la vraie liberté, voilà, c'est celle que Dieu nous offre et que c'est dans le but de rester libre, et ben ça nous permet de trouver le bon endroit entre les deux abus qu'on a vus tout à l'heure. Paul va répondre aussi à ces deux dérives, ces deux dangers. En ce qui concerne le légalisme, je vais lire la fin du résumé de Paul, donc les versets 4 à 6. Paul résume une nouvelle fois ce qu'il a dit auparavant. « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Mais nous, c'est par la foi et par l'Esprit que nous attendons la justice espérée. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais la foi qui agit avec amour. C'est par la foi seulement que nous sommes déclarés justes. Ça ne dépend pas de nos actions, d'aucun acte religieux, venir à l'église le dimanche matin ou autre. Donc qu'est-ce qui est important pour Dieu ? La foi. Mais la foi qui agit à travers l'amour. Et Paul prépare ici la transition avec le second problème, qui est le problème de la tolérance au péché, de faire un usage abusif de la liberté. Au verset 13 et 14, il dit « Soyez par amour serviteurs les uns des autres. Toute la loi est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » À première vue, c'est un peu étrange de retrouver la loi encore ici, parce qu'on vient de voir que c'est pas à cause de la loi, que c'est pas en accomplissant la loi qu'on est sauvé. Et Paul parle ici encore de « Toute la loi est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mais la loi, à la base, les 10 commandements, représentent la volonté de Dieu, sont le reflet de sa sainteté, de ses exigences en matière morale. Nous avons été libérés de la loi en tant que moyen d'obtenir le salut, mais la loi en tant que guide moral est quelque chose de toujours valable. Et Dieu attend que nous nous conformions encore à la loi en tant que guide moral. Et c'est là la clé de la compréhension de la liberté, de la bonne position de la liberté en Christ. La loi sainte de Dieu, c'est le cadre dans lequel il veut que l'on vive. Et dans ce cadre moral, nous sommes en communion avec lui. Et dans ce cadre, il n'y a pas de place pour le péché. Du Christ nous a libérés du régime de la loi, du péché, pour que nous soyons libres de faire le bien dans le cadre bienveillant qu'il a prévu pour nous. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Aime ton prochain comme toi-même. Cette restauration des relations verticales avec Dieu et horizontales entre les hommes et entre nous, c'est ça le défi auquel Dieu nous appelle. Et malheureusement, parfois, je regarde où j'en suis par rapport à ce défi. C'est pas très reluisant, mais la question de comment faire vaut la peine qu'on se la pose. En tout cas, j'ai besoin de me la poser assez souvent. La vraie liberté, comment faire ? Comment vivre en conformité avec ce que Dieu veut ? Et donc, ce passage va nous amener sur la dernière partie de notre texte, les versets 16 à 25, à 26. Paul dit « Marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. » Voilà. Il résume tout ce qu'il faut faire dans marcher par l'Esprit. C'est pas très explicite, mais voilà ce qu'il nous propose, marcher par l'Esprit. Alors on va essayer de développer ensemble ce que ça veut dire, les obstacles à cette marche par l'Esprit. Ce thème, on peut déjà en avoir entendu parler, la marche par l'Esprit, les fruits de l'Esprit. Il y a probablement eu plusieurs prédications dessus, déjà. Si je devais résumer ce thème, je dirais que l'Esprit, son rôle, c'est de nous faire prendre conscience à la fois que nous sommes enfants de Dieu. Il nous révèle, il nous aide à assimiler ce nouveau statut et à vivre en conséquence. L'Esprit nous aide à faire le bien. Il nous incite à faire la volonté morale de Dieu. Et l'Esprit nous révèle les endroits où le péché est encore présent dans nous. Et donc dans ce passage, Paul a opposé deux listes. La première sont les œuvres de la nature humaine et la deuxième, c'est le fruit de l'Esprit. Et au verset 17, il dit « La nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine, en sorte que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Paul ne veut pas dire ici qu'il y a une lutte d'égal à égal entre la chair et l'esprit en nous. Si nous avons été rachetés, et pour ceux dont c'est le cas, Christ nous a délivrés du péché, et nous avons la possibilité de vivre par l'esprit. Ce que Paul veut dire ici, c'est que ce sont deux choses qui sont complètement opposées, qui s'excluent mutuellement. Et on ne peut pas faire ce qu'on veut, dans le sens où on ne peut pas prendre un bout de ça, faire un patchwork à notre sauce. Soit c'est les œuvres de la chair, soit c'est le fruit de l'esprit. Et il faut choisir. Et ça demande un choix personnel de notre part. Et donc ces deux listes qu'on a lues tout à l'heure, elles couvrent trois domaines. Elles couvrent les domaines de notre relation à Dieu. Il parlait d'idolâtrie, par exemple. Couvre notre relation au péché. On parle d'immoralité, de débauche et de l'autre côté de maîtrise de soi. Et de manière plus détaillée, elle couvre les relations interpersonnelles. Les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités. Et de l'autre côté, la bonté, la bienveillance, la douceur. Ces listes couvrent toute la volonté de Dieu pour nous. L'honorer et servir les hommes. Toujours cette relation verticale cette relation horizontale. Et dans cette liste, encore une fois, il y a des péchés qui sont très visibles, j'ai envie de dire, ou très évidents peut-être. L'immoralité sexuelle, la débauche, l'impureté, l'ivrognerie, les excès de table, l'idolâtrie, la magie, ce sont des choses, on se dit évidemment, ça c'est un péché. Mais il y a d'autres choses dans cette liste. Les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie. Et on pourrait continuer la liste, on pourrait rajouter l'inquiétude, l'impatience, l'égoïsme, l'indifférence, la méchanceté, l'infidélité, l'agressivité, l'emportement. Et Paul est catégorique. Ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alors pourquoi est-ce que c'est si important pour porter du fruit ? On peut penser à trois réponses rapides. La première, c'est que, évidemment, c'est la volonté de Dieu pour nous. C'est son commandement. La deuxième, c'est que porter du fruit, c'est aussi un témoignage autour de nous. Une vie par l'esprit est une vie qui est différente de la vie que l'on peut trouver dans le monde. Et c'est une vie qui interpelle aussi nos voisins, nos amis, les gens de notre famille qui ne connaissent pas Dieu. C'est un moyen de témoignage. Et enfin, ça nous permet aussi de vivre dans une meilleure communion entre nous. Mais d'un point de vue plus personnel, plus intérieur, porter du fruit de l'esprit, c'est voir de manière visible l'action de Dieu en nous. Et le fruit de l'esprit, c'est une preuve que le Saint-Esprit travaille en nous. On l'a vu la semaine dernière avec Michael. Je vais relire le verset chapitre 4, verset 6. Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». L'esprit nous assure que nous sommes bien enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous avons de la sécurité. Quand on pense aux événements de cette dernière semaine, voilà, nous avons une sécurité parce que nous savons qui nous protège. Nous avons de l'assurance si jamais nous doutons, parce que l'Esprit est là et nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons aussi une espérance pour la vie après cette terre, une espérance de rencontrer notre Dieu. Et donc porter du fruit, c'est une preuve visible de la présence du Saint-Esprit, du Consolateur envoyé par Dieu dans notre vie. Et c'est un encouragement, je pense, pour notre foi. Alors, vous me direz, très bien, marcher par l'esprit, et ensuite, si j'observe encore des comportements humains dans ma vie, qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que je ne vois pas la progression que j'espère? On va terminer ce message en regardant quels peuvent être les obstacles à ce fruit de l'esprit, et quelles en sont les solutions. si on regarde notre vie et qu'on se dit « je n'observe pas les fruits de l'esprit que j'aimerais voir », il y a deux possibilités. Soit nos attentes ne sont pas réalistes, soit effectivement le résultat est décevant. Et c'est important de répondre à ces deux problèmes. C'est possible que nos attentes ne soient pas réalistes, que nos attentes soient fausses. Peut-être on pense qu'après notre conversion, Dieu va faire de nous simplement quelqu'un de quasi parfait, tout de suite, sans effort. Et évidemment, la déception est grande, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Et cette question est une question intéressante, elle amène deux points. La première, c'est quelle est notre responsabilité ? Paul écrit au verset 15, « Marchez par l'esprit », c'est un impératif, c'est un ordre. Au verset 24, il écrit « Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. » Ont crucifié, c'est une action, c'est un verbe à la voix active. Chapitre 2, verset 20, on avait « J'ai été crucifié avec Christ ». Là, « J'ai été crucifié avec Christ », c'est une voix passive. À ce moment-là, Paul parle du salut, et la voix passive nous indique que le salut ne dépend pas de nous. C'est Christ qui a accompli le salut. Un point, c'est tout. Et on n'a aucune action dans ce salut. Mais ici, ce sont des verbes à la voix active. Notre responsabilité, c'est d'avancer, c'est d'écouter la voix de Dieu. Et la responsabilité de Dieu, en contrepartie, c'est de nous aider, de nous équiper, de nous guider et de nous pardonner si nous trébuchons. Mais nous avons la responsabilité de rechercher les fruits de l'esprit selon l'expression populaire, ça ne tombe pas du ciel, pas forcément du ciel. Donc le premier point, c'était notre responsabilité. La deuxième chose qui peut faire que nos attentes soient un petit peu irréalistes ou faussées, c'est qu'on peut avoir envie que ça se passe du jour au lendemain, sans attendre, sans effort. Mais ça ne se passe pas comme ça. Les mauvaises habitudes qu'on a prises avant notre conversion, ou même qu'on a prises depuis d'ailleurs, elles restent dans notre vie. Dieu peut accorder une grâce particulière occasionnellement pour libérer d'un péché ou d'un fardeau particulier, mais de manière générale, nous vivons toujours avec notre corps humain, dans notre nature humaine. La perfection, ça sera pour le ciel, ça sera merveilleux, mais ce n'est pas encore maintenant. Marcher par l'esprit, ce n'est pas un sprint qui commence le jour de notre conversion et qui se termine le lendemain. C'est plutôt un marathon qui dure toute notre vie. Et il peut nous arriver de trébucher un chemin. Et c'est là que nous avons besoin de la grâce de Dieu qui nous accompagne. Et si nous nous repentons sincèrement, Dieu nous pardonne. Donc voilà pour nos attentes. Nous avons la responsabilité de rechercher Dieu, de rechercher ce fruit de l'esprit avec persévérance et avec l'aide de Dieu. Jusqu'à la ligne d'arrivée qui est située au ciel. Et l'autre façon de ne pas voir les fruits que l'on observe, c'est qu'effectivement, les fruits que l'on attend, pardon, c'est qu'effectivement les fruits ne sont pas là. Le résultat peut être décevant. Et il y a plusieurs raisons possibles à cela, peut-être d'autres que celles que j'ai listées, mais c'est possible qu'on n'ait juste pas envie de perdre. On ne se rend pas compte que c'est important. Pour nous, ce n'est pas essentiel. C'est une possibilité. Peut-être aussi, on n'a pas envie d'écouter l'esprit. On n'a pas envie de se remettre en question quand il nous dit bon, là, ta colère, c'est quand même souvent la même chose. Il faudrait que tu travailles sur ça. Peut-être qu'on n'a pas envie d'écouter l'esprit. Et enfin, peut-être le plus dangereux, c'est de banaliser le péché. C'est quelque chose qui peut être volontaire ou pas. Ça peut être volontaire, par exemple, imaginons quelqu'un qui se met en colère très souvent. Et pour ne plus se sentir coupable lorsqu'il se met en colère, cette personne peut décider, peut se convaincre elle-même que finalement la colère n'est pas un péché. On déplace un petit peu le curseur entre le bien et le mal pour que voilà, tout ce qu'on fait, ça soit dans la région de bien et tout ce qu'on ne fait pas, ça soit dans la région de mal. Ça nous permet, d'une certaine façon, voilà, de vivre de manière plus confortable. Mais la banalisation du péché, ça peut être aussi involontaire. On a des influences de notre société qui peuvent tout doucement déplacer aussi ce curseur entre le bien et le mal. En termes de sexualité, de matérialisme, de fraude fiscale, par exemple, c'est des choses qui sont tellement courantes autour de nous qu'on peut parfois sans faire attention, banaliser un petit peu ces choses. Mais banaliser le péché, c'est dangereux. Parce que Dieu a horreur du péché. Et la solution à cette banalisation du péché, je pense, elle se trouve dans la personne de Christ et de son œuvre. Souvenons-nous, et on le fera au moment de la scène juste après, souvenons-nous que Dieu est saint et qu'il ne tolère pas le péché. Souvenons-nous que nous-mêmes, nous sommes pécheurs. Nous sommes indignes de sa présence, de son amour. Souvenons-nous que le salaire du péché, c'est la mort. Et que c'est pour nos péchés que Jésus est mort. C'est à cause de notre colère, de notre jalousie, de notre immoralité, de notre amour de l'argent, de notre indifférence, de notre infidélité, de notre manque de maîtrise. Pour toutes ces choses, nous étions séparés de Dieu, et pour toutes ces choses, Christ est mort, pour que nous puissions à nouveau être près de Dieu. Donc, par respect pour son sacrifice, détournons-nous maintenant du péché. Demandons à Dieu de nous montrer là où nous péchons encore, et écoutons l'Esprit qui vient faire ce travail de réajustement du curseur. Soyons attentifs, laissons-le travailler en nous. Voilà, en conclusion, nous avons vu la liberté, pourquoi faire. Dieu nous a libérés pour que nous restions libres, pour que nous restions dans le cadre prévu par sa loi morale, qui reste et demeure le reflet de sa sainteté. Et grâce à son œuvre pour nous à la croix, Dieu est la seule personne légitime pour nous demander d'accomplir sa volonté. Il nous offre un cadre dans lequel nous avons toute la liberté pour faire le bien, sans nous nuire les uns aux autres. Et on peut devenir, volontairement ou pas, tolérant à certains péchés. N'oublions pas que Christ a payé ce prix. Payer le prix pour que nous puissions nous détourner de ces choses. Laissons-le nous guider vers les belles œuvres qu'il a préparées pour nous. J'ai terminé par le verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Plutôt, puisque nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire.